Échapper à la morosité pluvieuse et aux hivers interminables avec Olivier Labrecque. Votre rêve de Floride vous attend. Dites adieu aux parapluies et bonjour au soleil radieux. Profitez de l'hiver sous le soleil, près de la piscine et avec des activités en plein air. Posséder une propriété en Floride ouvre des possibilités infinies. Appartement avec vue sur l'océan, maison près d'attractions mondiales, investissement lucratif, tout est là. Des vols pratiques vous rapprochent de ce paradis tropical. Ne tardez plus, contactez Olivier Labrecque au 438-410-5638 pour le Québec et au 305-905-6525 à partir des États-Unis.
Hey, bonjour tout le monde, bienvenue dans Yann et Frank. Aujourd'hui, les deux pieds sur le pouf, c'est Jérôme Blanchet-Travail, Jérôme Blanchet-Gravel qui travaille à notre place. La langue m'a fourchu, Caroline.
Yes, on est bien content d'avoir Jérôme encore aujourd'hui. Cette fois-ci, mon micro fonctionne comme du monde, mais c'est mon image de temps en temps qui a des problèmes. Jérôme, comment ça se passe à Libre Média? J'ai vu quand même des nouveaux grands entretiens qui s'en viennent. Vous avez fait une vidéo promotionnelle là, qui circule avec un montage assez percutant quand même. Je ne veux pas la faire jouer parce que j'ai l'impression qu'il va y avoir un truc de droit d'auteur là, avec YouTube et tout, là, vu que votre chaîne est monétisée aussi. Mais bref, il y a encore des... Tu nous avais averti qu'il allait y avoir beaucoup de trucs pour la rentrée, pour les médias, mais je pense que là, on est à même de constater que ça continue, là, votre croissance et tous les projets que vous entreprenez finalement, là.
Oui, on anticipe une bonne rentrée. Donc, la vidéo promo, ben c'est ça. C'est pour marquer le début de la rentrée. Alors, on invite les gens à aller voir effectivement la vidéo qui a été montée par Francis Denis, notre directeur vidéo, qui fait toujours un excellent travail. Donc, en gros, on poursuit sur notre lancée. C'est-à-dire, on continue à publier des reportages, des entrevues, des grandes entrevues. Hier, on avait Frédéric Tétu en grande entrevue. Après le même format que c'est le même format auquel tu as participé, Frank. Donc ça va être à surveiller pour nos auditeurs, pour vos auditeurs, pour nos auditeurs aussi, parce que bon, Frédéric Tétu est connu de nos deux publics, je pense. On continue avec les entrevues, avec les reportages, avec les chroniques, avec le volet parisien aussi, Anne-Laure Bonnel, notre correspondante à Paris, qui fait un travail exceptionnel en développant l'antenne parisienne là-bas. Donc on a tout le volet géopolitique, bon, elle s'en occupe beaucoup. Donc, on continue sur notre lancée. On pense toujours à une application mobile sur le plan technique. Vous l'avez remarqué, peut-être certains auditeurs l'ont remarqué, notre page Facebook n'est pas encore bloquée complètement. On se demande pourquoi et on s'en réjouit. Donc, pour l'instant, pour ceux qui se demandaient si on allait subir des impacts de cette fameuse loi-là qui a mené à la suspension des pages d'actualité par Facebook, par Meta, la réponse est non. Nous, on n'a pas encore été affectés par ça. Donc, on s'en réjouit, mais on va quand même probablement rebondir sur l'application mobile malgré tout, parce que ça se pourrait quand même qu'un jour, la page soit fermée. Mais pour l'instant, on a subi aucune séquelle de ces développements-là. Évidemment, je le craignais quand même un peu, je l'avoue. Fin juillet, etc., j'anticipais ça. Mais pour l'instant, c'est zéro impact. Les abonnements continuent. On continue à monter le nombre d'abonnements. On continue à monter le nombre de visiteurs uniques par mois. Non, ça va bien. Moi, je suis très, très optimiste. Évidemment, on reste une start-up. On a 18 mois à peine, mais ça va très bien. Puis la rentrée, je pense que ça va faire une différence sur le plan de la visibilité, encore une fois, parce qu'on sait que l'actualité, évidemment, est plus intense à partir de l'automne que durant l'été.
Vous avez officiellement dépassé sur YouTube. Vous êtes rendu à 19 000 abonnés, d'ailleurs. On continue d'inviter nos gens à s'abonner à leur chaîne. Puis si vous n'êtes pas abonné à la nôtre, qu'est-ce que vous faites là? Abonnez-vous, vous autres aussi. Mais on voit les vidéos, tu sais, 15 000 vues sur contre-offensive ukrainienne de votre côté.
Mais notre record, c'est 153 000 avec une vidéo récemment sur la situation au Niger. Il y a eu un coup d'État.
OK.
Là, c'est sûr qu'on va chercher un public
francophone
globalement. C'est-à-dire que Libre Média ne se limite déjà plus au Québec. C'était dans mes plans d'entrée de jeu. Pas qu'on veut snobber le Québec, loin de là. On va toujours rester enraciné au Québec. Puis on va toujours suivre l'actualité québécoise, mais moi, mon objectif au départ, c'était quand même d'ouvrir Libre-Média à la francophonie. Et on voit qu'une vidéo comme sur le Niger, qu'on est allé chercher même des auditeurs en Afrique, là. Ça, c'est clair.
Ouais.
Y a beaucoup, beaucoup de francophones en Afrique. Donc, c'est notre record, oui. Mais ça ne me surprend pas tant que ça. J'avais dit à Anne-Laure, tu vas voir, quand on va aller vers l'Afrique, il va y avoir beaucoup de vues. C'était clair. Et c'est ce qui s'est produit. Mais il faut dire que notre intervenant est très, très bon, là. Philippe Antoine Glasner, si je me rappelle bien, donc qui est très compétent, qui a fait une analyse assez, assez bonne. Notre deuxième record, je pense, c'est une entrevue avec Piotr Tolstoï à Moscou, le vice-président de la Douma. Donc, Anne-Laure était allée à Moscou, au Kremlin, pour interviewer ce gars-là. On s'entend que c'est pas rien.
C'est assez exclusif, ça, là.
Ouais, pas mal. Troisième record, je pense, c'est un truc encore avec Anne-Laure. Et sinon, j'ai mon entrevue avec Maria Mourani, qui est en train quand même de faire un 40 ouais. de vues. C'était quand même assez bon. Pour un média qui, en fait, met l'accent sur sa chaîne YouTube depuis à peu près le mois de mars, le gros, pas plus que ça. Avant le mois de mars, on n'était à peu près pas sur YouTube.
Mais c'est incroyable. Moi, j'en reviens pas de... Tu sais, on voit un peu là, les médias, la crise qu'ils traversent. Tu dis, bon, Libre Média, Yann et Frank, dans deux créneaux différents, des médias qui ont émergé il n'y a pas si longtemps que ça. T'sais, dans un cas, une chaîne YouTube de 19 000 kicks abonnés, nous autres, on a passé le 12 000. Puis tu regardes des médias comme Québécois, ils ont une chaîne YouTube anémique, ça ne fonctionne pas. Il y a à peu près juste Radio-Canada, finalement, qui a l'air à tirer un peu son épingle du jeu, mais sans doute que ce n'est pas à cause des ressources immenses qu'ils ont à mettre là-dessus. Il y a des gens, probablement, dont l'unique travail, c'est de mettre des vidéos et sur leur chaîne YouTube et d'en faire la description, là, tu sais.
Oui, puis sans doute que Radio-Canada va chercher un public international francophone aussi. J'imagine une petite portion de ce public-là à l'échelle internationale avec avec sa vocation internationale de Radio-Canada. Donc, j'imagine qu'il y a des gens en France qui finissent par tomber sur des vidéos de Radio-Can sur des phénomènes divers, là. Mais c'est assez fou parce qu'on est vraiment en train de mener une guérilla médiatique. C'est-à-dire que les médias comme le vôtre, comme le nôtre, ce sont des petits médias, mais qui mènent une lutte contre des géants. Et ça fonctionne. C'est-à-dire, c'est vraiment le principe de la guérilla. C'est comme... ça, c'est l'armée cubaine qui est capable de battre l'armée américaine à la baie des cochons. Là. Je ne sais pas si vous comprenez. Là. C'est... Uh-huh. Nous, on tourne des entrevues dans des mini-studios. Notre directeur vidéo fait à peu près tout. On se bat contre des gens qui ont un gars qui a une attitude, qui est un perchiste, qui fait juste un preneur de son. Le gars fait juste ça. Il est là que ça perche. Ce gars-là coûte 70 000 par année à l'État. On se bat contre des monstres et... on arrive malgré tout à les concurrencer. C'est vraiment incroyable. C'est incroyable ce qui se passe. On est vraiment dans une des années de guérilla. Et moi, si j'étais PDG d'un grand média, je me poserais des solides questions. Là. En fait, je serais très, très inquiet. Là. Puis il y a toute la dynamique idéologique. Malgré tout, on est quand même en train de construire un réseau de journalistes, chroniqueurs, podcasteurs, etc., qui nous critiquons le wokisme, et je pense que ça commence à se sentir. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui émergent, des Roxane la banane, on se fout carrément de la gueule des woke. Et vraiment, il y a des gens qui doivent se poser la question. Coudon, il y a encore des gens qui ont des couilles au Québec, c'est déjà c'est assez surprenant.
Ouais, puis tu sais, quand tu regardes le phénomène Oliver Anthony, qui est devenu carrément numéro un sur le Billboard avec une chanson. Tapé relativement simplement, qui touche le public, un gars qui part de rien, ainsi de suite. Tu es vraiment dans une position où ce que tu dis maintenant, les grands empires artistiques, avec des agences de pub, avec des agences de marketing, avec des concepteurs de tournées gigantesques, je veux dire, le gars...
Ouais, il part de nulle part, puis il passe en avant de Taylor Swift. Là.
Ben c'est ça. Taylor Swift qui va ramasser 1,4 milliard de dollars dans une année juste avec ses concerts, tu sais. Uh-huh. Fait que t'es dans un monde où est-ce que tu te dis maintenant, avec l'arrivée du web, mais aussi les réseaux sociaux et finalement la démocratisation médiatique qu'on est en train de vivre, t'es dans un monde où est-ce que tout le monde peut avoir une chance de grimper en haut éventuellement. C'est un peu la base du rêve américain d'une certaine façon. On a toujours présenté le rêve américain comme étant voici une échelle, si tu mets le pied sur le premier barreau, tu peux grimper, puis sky's the limit éventuellement. On ne sait pas où est-ce que tu peux arrêter de grimper la journée que tu as réussi à atteindre cette échelle-là. Mais c'est exactement ça qui se passe dans le milieu médiatique. et les grands groupes qui ont de l'argent ou qui avaient de l'argent dans leur poche tardent aussi à s'adapter puis à réagir. Tu sais, on regarde dans le milieu pharmaceutique, si tu penses au vaccin, par exemple, qu'est-ce qu'on a vu? Ah, le vaccin Pfizer. C'est-tu réellement Pfizer qui a développé le vaccin? Ou bien non, c'est pas une petite compagnie en arrière qui a innové puis qui a été achetée slash partnership avec Pfizer. Les grosses compagnies ne sont plus capables d'innover généralement. C'est des compagnies qui doivent acheter ou développer des partnerships avec des petits joueurs pour être capables d'innover. Mais quand tu regardes le milieu médiatique, est-ce que ces compagnies-là, un peu à la Québécois, à la Cogeco, veulent développer des partnerships avec les petits indépendants qui poussent? Ou ben non, sont en train de les snobber. La réalité, c'est qu'ils sont en train de les snobber. Et à mon avis, c'est une erreur capitale dans leur cas.
Oui, ils font ils font un pari très risqué, surtout considérant la mentalité québécoise. Ils pensent que le Québécois va choisir Goliath contre David. Parce que c'est sur ce tableau-là qu'ils jouent par rapport aux gros du web. Ils disent, les gros nous écrasent, nous autres, on est des petits, mais ça cache une autre affaire. Ça cache que eux, ces médias-là, en fait, leur vraie compétition, c'est pas Facebook, Twitter, ce sont les petits médias qui émergent et qu'ils veulent écraser. Parce que eux, on les subventionne. Ils parlent de concurrence déloyale et eux, on les subventionne. Nous autres, on n'en a pas. Eux, ont le placement publicitaire du gouvernement. Nous autres, on n'en a pas, etc., etc. Donc, c'est eux, c'est eux qui nous font de la concurrence déloyale d'une certaine manière.
Là, ils vont dire. Vous l'avez vu, Yann et Frank, ils quittent des dons. Tu sais, ça, c'est un truc qu'on entend chez certains gauchistes. C'est un argument qui est assez bidon, mais vous comprenez, comme si nos médias qui, évidemment, vivent sur des abonnements étaient moins légitimes que les grands médias hyper subventionnés. C'est-à-dire, à la fin du mois, il y a forcément quelqu'un qui a envoyé de l'argent dans un média. Tu sais, c'est-à-dire, soit c'est obligatoire parce que c'est prélevé sur vos impôts, ou soit vous faites le choix vous-même de financer un média que vous aimez. Donc, tu sais, il y a quelqu'un qui aime Radio-Canada qui dit « Ouais, vous quêtez de l'argent. Ouais, mais en quoi Radio-Canada ne quêterait pas de l'argent à même vos poches, sans même que vous vous rendez compte? » C'est hallucinant comme raisonnement. Je ne sais pas, vous comprenez?
Oui.
Mais ça, on l'entend souvent. J'entends souvent ça des détracteurs de Libre-Média bon, qui n'ont pas grand-chose à dire puis qui n'ont pas l'air de prix Nobel non plus. Mais vous quêtez de l'argent, mais les médias que vous aimez, eux, d'où provient leur argent, sinon de vos poches? Quel raisonnement ridicule.
Ah, puis quelque chose qu'on commence à voir même dans le monde international, je ne sais pas pourquoi j'ai fouillé là-dessus à un moment donné, mais on commence à avoir des reportages dans des agences de presse, telles que Associated Press, France Presse ou Reuters, ces firmes-là, qui eux, généralement, ils produisent l'information qui est le plus possible objective, ou en fait, c'est ce qu'on nous présente. Puis après ça, ça peut être pris à peu près par tous les médias qui sont abonnés à leur service. Ouais. Seule affaire, c'est que là, on nous présente maintenant que je me rappelle plus laquelle, mais c'est, je pense que d'une presse américaine, c'est Associated Press, si je me rappelle bien. Associated Press qui était tout fier de dire ben maintenant, on a une vingtaine de journalistes payés pour faire des reportages strictement sur l'environnement. Puis ça, c'est grâce à un don de telle fondation. Puis ça, c'est un nouveau mode de financement des médias, c'est un financement de philanthropie, blablabla. Mais on est en train de se rendre compte aussi que, justement, ces grands groupes-là, philanthropistes américains, qui ont des poches pleines, fondation de Bill et Melinda Gates, des groupes de ce genre-là, je pense que c'est la Rockefeller Foundation que j'avais vu qui finançait un des projets d'Associated Press. Mais ce que tu te rends compte, c'est que ces grands médias-là vont commencer à être financés à des fins idéologiques par des fondations. Puis on va créer des problèmes ou des délits d'éthique, à mon avis, dans le milieu des grands médias. Et personne n'en parle et personne ne se rend compte de ce qui est en train de se tramer de ce côté-là. Puis, on s'entend, les agences de presse ont une influence qui est très, très, très grande dans le monde parce que leurs textes sont repris par à peu près tous les médias sur la planète.
Effectivement. Moi, je pense que la limite a déjà été franchie là, durant la pandémie, niveau éthique. C'est sûr que, un surfinancement public emmène forcément des problèmes parce que c'est quand même très marrant qu'encore une fois, que des journalistes hyper subventionnés au Canada, vont déplorer l'existence de RT, de la chute de l'agence de presse russe. Bon, je donne cet exemple-là parce que j'y ai contribué comme pigiste. Oui, mais est-ce que vous pensez que Radio-Canada est moins financé que les médias d'État russe? Non, Radio-Canada n'est pas moins financé que les médias d'État russe.
Mais oui.
Comprenez? Et Radio-Canada a également le rôle de présenter une image positive du Canada à l'international, ce que fait les médias russes, ce que fait la... Je dis pas par contre que c'est moins subtil. En fait, je pense que Radio-Canada a une ligne idéologique. Ben, je ne sais pas si j'irais jusque-là. Quand on connaît, je pense que Radio-Canada est très marqué idéologiquement. Mais c'est peut-être la propagande favorable à Trudeau, au multiculturalisme, est peut-être un peu plus subtile que celle, par exemple, de la propagande russe dans les médias russes.
C'est-à-dire que, les grands médias comme Radio-Canada, à mon avis, se sont décrédibilisés sur plusieurs aspects. Un d'entre eux est qu'ils ont élargi leur mandat à la production de toutes sortes de contenus qui, lui, est extrêmement idéologique. Donc, si vous allez dans la section nouvelles, mettons, du site Radio-Canada, vous allez trouver des articles qui sont à peu près neutres. Mais se rattache à toute cette affaire-là, plein de patentes dont j'ai fait écouter dans la partie Patreon plus tôt. C'était un extrait que j'avais entendu justement qui avait été sorti par Doom Dumas à Radio X. Un extrait d'une émission de Radio-Canada où il incite les gens à aller voler, à aller siphonner le gaz des VUS. Dans un podcast. Donc, ce genre de contenu complètement délirant-là, frisant avec l'extrême gauche, tout ça, est à Radio-Canada et est comme greffé au système de nouvelles qui, lui, a prétention à être neutre, mais ça vient que ça mine la crédibilité de tout le reste, parce que les gens disent ben, « Regardez les podcasts avec Olivier Niquette, Rose Aimée, pas tant de choses et autres. Il n'y a rien de neutre là-dedans. C'est des activistes de gauche reconnus par tout le monde. »
Absolument rien. La neutralité journalistique est un mythe, évidemment, à Radio-Canada, comme est un mythe à Québécois. En fait, je pense que la neutralité absolue n'existe pas. Il faut être assez honnête. Là, c'est-à-dire que chaque média a une ligne éditoriale. Après, il faut s'efforcer quand même de présenter les deux côtés de la médaille, ce qui n'est pas toujours fait. Mais la neutralité absolue, il ne faut pas s'en cacher. C'est peut-être un tabou que je brise comme journaliste, là, mais elle n'existe pas. Là, forcément, c'est ce qu'on appelle une ligne éditoriale sert à ça, là, sert à orienter.
On est plus que dans des lignes éditoriales parce que j'ai retrouvé l'article de Associated Press. Il annonce carrément qu'il va y avoir 20 journalistes qui vont être affectés à l'Afrique, au Brésil, à l'Inde et aux États-Unis pour du reportage climatique. Puis, quand tu regardes les fondations derrière ça, puis qui offrent des millions de dollars pour ce projet-là, de la William and Flora Hewlett Foundation, Quadrivium et de Rockefeller Foundation. tu sais, puis t'es là, tu dis, écoutez, là, ça, c'est plus qu'une ligne éditoriale. C'est du publi-reportage déguisé. Du publi-reportage déguisé en faveur d'organismes quand même très à gauche. Il n'y en a pas d'objectivité médiatique. Fait qu'à un moment donné, il faut arrêter. Ben, en fait, si tu arrives, tu mets tout dans la balance, tu te dis crime, le principe des abonnements, où est-ce que tu es financé directement par tes consommateurs, à la limite, c'est ce qui permet plus d'être neutre que le reste, à mon avis. Mais bon, c'est tout dans ma tête, vous allez dire. Mais non, il y a des grands changements, puis on commence à le sentir plus qu'avant. Avec la fermeture du journal Métro, Québécois hier qui annonce que ma TV va être fermée aussi dans la région de Montréal. Il
faut des Isabelle, le groupe là, qui détient le soleil, le droit, puis tout ça, là, ils ont mis à pied plein de jeunes.
On arrive vraiment à la fourche qui va faire en sorte qu'on est à l'aube que le gouvernement step in pour sauver ces médias-là. À mon avis, avec des méga projets, il y a quelque chose qui se prépare. Parce que je doute de voir les gouvernements canadiens et québécois laisser mourir ces alliés naturels-là pour eux. Fait que j'ai hâte de voir comment ça va se dessiner tout ça, mais on va étatiser nos médias dans très peu de temps au Québec et au Canada. Là. Ça va être assez spectaculaire quand même.
Bien, surtout vu la position actuelle de Trudeau dans les sondages, ne sous-estimez pas la tentation qu'il va avoir à essayer d'acheter ces médias-là pour se faire faire une permanente. Là. Mais c'est ça la réalité. Le gars est en train de perdre le pouvoir carrément.
Mais ces médias-là vont continuer quand même à perdre de l'audience, sans doute.
Ouais.
Après, si on force les gens à les écouter parce que c'est les seuls qui ont pignon sur rue, je comprends, mais c'est pas le cas. Là. Ça devient quand même une constellation de médias indépendants. Comme je le répète, on mène une véritable guérilla médiatique. Le rapport de force, je n'irais pas jusqu'à dire qu'il s'inverse, là. Ça, c'est prématuré. Mais ça reste incroyable que des gens dans leur sous-sol puissent concurrencer des grands médias. C'est pas normal que Libre Média ait plus de vues ou autant de vues que Radio-Canada sur le Niger ou d'autres sujets connexes. Là.
Exactement.
Ça n'a aucun bon sens. Là, c'est disproportionné. Là. Vous comprenez, on parle de milliards. C'est 1 milliard de budget par année, je pense, Radio-Can.
Ah, 1,4
milliard. Ouais. Bon, je ne dévoilerai pas le budget de Libre Média, mais vous comprenez que ça ressemble pas, ça se rapproche pas vraiment à ça.
Mais je pense que ce qui dérange beaucoup les gens, mais ce que j'allais dire, c'est que je pense que ce qui dérange beaucoup les gens dans les médias traditionnels ou en tout cas subventionnés, appelons-les comme ça, c'est qu'il y a une prévisibilité de la position et du contenu, alors que c'est supposé d'être neutre. Mais le dossier que vous avez couvert sur ce qui se passe à Londres, par exemple. Je sais très bien que si je fouille des informations là-dedans venant des médias, on va nous dire que c'est des malades mentaux anti-environnement qui ont attaqué des trucs, une menace contre la
démocratie. Mais anti-environnement, ça c'est très intéressant, tu vois, Frank, parce que...
On va juste le mentionner parce qu'il y a des gens qui sont juste en...
C'est un peu une... Regardez le masque, c'est pas celui de V, là, pour Vendetta, mais c'est une mouvance qui normalement serait à gauche. Tu sais, on assiste aussi à un nouveau clivage. Tu sais, accuser ces gars-là...
Peut-être juste expliquer c'est quoi un peu, parce qu'il y a des gens qui sont en audio, n'ont pas vu la
Ben, dans le fond, la ville de Londres a été divisée en plusieurs secteurs et il y a beaucoup de caméras, des caméras hypersensibles qui sont capables de détecter la quantité d'émissions de CO2 émis par votre véhicule, si j'ai bien compris. Là, donc, les zones à basse émission en français. Et certains véhicules, si vous êtes propriétaire d'un véhicule, qui d'avant 2015, eh bien là, vous pouvez avoir une amende parce que votre véhicule est plus conforme aux standards écologiques en vigueur, en gros.
Hey, mais ça, c'est une attaque envers les gens les plus défavorisés, pareil.
Ben, il y a ça, évidemment, c'est ça. Donc, c'est une politique qui favorise les riches. Donc, on est vraiment dans un écologisme très bourgeois. On est dans une lutte de classe, enfin. C'est ça qui est incroyable. Donc, c'est la gauche qui réhabilite une sorte de lutte de classe. Donc, il y a des gens qui s'élèvent contre ça à Londres. On les appelle les Blade Runners. Et c'est des gens qui vont finalement vandaliser, en gros, des caméras, des radars, des détecteurs d'émissions de CO2 qui visent les véhicules, etc.
Ouais, c'est les fameux ULEZ, là, les Ultra Low Emission Zone.
C'est ça. Donc, vous comprenez que cette désobéissance civile, est-ce qu'elle est vraiment à droite? Moi, accuser des gens masqués avec des masques UV pour Vendetta de... peut-être de l'extrême droite, il y a quelque chose qui ne marche pas là-dedans. On assiste aussi à un nouveau clivage. Là. On ne pourra pas croire que ces gens-là, que c'est de l'extrême droite.
Ouais, c'est comme moi, Jérôme, aujourd'hui, ne plus être d'accord avec l'idéologie dominante, c'est être d'extrême droite. C'est rendu ça, la définition. Il y a une définition classique de l'extrême droite, là, c'est refuser les élections, prendre le pouvoir par des coups d'État, ce genre de truc-là. Le refus de la démocratie parlementaire, c'est ça normalement la définition classique de l'extrême droite, ou en tout cas dans ses composantes. Aujourd'hui, être d'extrême droite, c'est juste quelqu'un qui n'est pas d'accord avec le fait qu'on taxe une piscine ou qu'on mette des compteurs de CO2.
Les étiquettes vont vite, effectivement, mais si on analyse froidement et intelligemment le phénomène, je veux dire, il y a une imagerie. Quand on regarde ces gens-là, ils ne peuvent pas être d'extrême droite. Dans l'histoire des idées, ça ne peut pas être d'extrême droite. Je veux dire, ils n'ont pas la symbolique, ils n'ont pas les revendications. Ça ne colle pas avec un mouvement d'extrême droite. Mais enfin, je comprends que les gens pourront dire que c'est des terroristes anti-environnement d'extrême droite s'ils le veulent. Mais intuitivement, on sent qu'on est on est devant quelque chose de différent. Là. C'est V pour Vendetta. Là, moi, j'entendais... J'étais en conférence à Montréal là, récemment, là, c'était d'identité numérique, il y avait un conférencier français, Carlo Broussa, qui lui-même est associé, un autre qui est associé à l'extrême droite, je ne sais pas si je le suis tant que ça, là, mais c'est tellement devenu ridicule. Mais j'écoutais le type, puis à un moment donné, je suis intervenu, puis je dis, monsieur, vous êtes accusé d'être d'extrême droite, mais vous avez exactement le même discours que Proudhon au 19e siècle, c'est-à-dire qu'ils ont les mêmes discours que des anarchistes au 19e siècle, là. Donc l'État qui contrôle, etc., l'État technocratique, le monstre bureaucratique qui vous a fiché, qui vous surveille, qui vous monitore, c'est les discours des anarchistes au 19e siècle, donc c'est l'extrême droite qui est rendue qu'un discours d'anarchiste. Je ne sais pas si vous voyez, là. Puis le libertarianisme est proche de l'anarchisme. Moi, je suis en train de lire ça, alors je le termine, c'est une méchante brique. Là. Lui, c'est un penseur anarchiste, James C. Scott. Et j'aurais jamais pensé, moi, en 2023, lire des auteurs anarchistes et me dire, ben, finalement, j'ai peut-être un côté anarchiste. Là, c'est moi qui vous dis ça. Donc, on est très, très loin de l'extrême droite. Très, très, très loin de l'extrême droite. C'est quelque chose de complètement ridicule. Il y a un nouveau clivage, mais les gens ne sont pas capables de le voir parce qu'ils restent sur des... Ils sont très, très clichés dans leur pensée, puis finalement, ils n'ont aucune capacité d'analyse parce qu'ils sont sur des réflexes idéologiques, préfabriqué par les médias, entretenu par les médias, etc.
Ben, pendant un certain temps, il y avait une espèce de mouvance qui nous disait « Ah, gauche-droite, ça n'existe plus, le vrai clivage. » Ça a été beaucoup dans le cadre de la crise, par exemple, de la Grèce en Europe. On nous disait « Le vrai clivage, et c'est par rapport au Brexit aussi, on nous disait « C'est nationalisme versus mondialisme. » Il y a eu une mode de cette manière-là de présenter les choses. Mais moi, mon ressenti à moi, c'est vraiment que s'installe un petit peu partout vraiment un nouveau clivage qui ressemble un peu à celui gauche et droite, mais qui où on voit des gens qui sont plutôt des genres d'anarchistes de gauche, mais maintenant qui sont devenus d'extrême droite, parce que le nouveau clivage, c'est étatiste versus libéral en réalité. Là. Libéral au sens véritable du terme, c'est qu'on a des gens, autant à gauche qu'à droite, ce sont des amoureux de l'État. Ils veulent instrumentaliser les leviers de l'État pour des fins idéologiques, que ce soit l'environnement, que peu importe ce que ce soit le motif. Et on a des gens qui sont supposément de gauche qui s'extasient que l'État instrumentalise l'éducation pour faire du preaching de l'idéologie du genre ou ce genre de trucs-là. En réalité, ces gens-là sont, si tu reprends d'anciens clivages, ces gens-là sont zéro de gauche. Là. Ils sont pour le big government, pour le...
Non, mais c'est ça. Mais on l'a vu dans la pandémie. Tu sais, quand c'est rendu que la gauche défend Big Pharma, vous comprenez? C'est un délire complet, là, tu sais, du moins c'est une contradiction assez flagrante. La gauche était avec Big Pharma, pensez-y deux secondes. Il y a des choses, des fois, moi je lis les journaux latino-américains, puis je lis les journaux latino-américains de gauche, puis des fois je suis d'accord. Ça m'arrive souvent, là, la Jornada au Mexique, le grand journal de gauche, où Noam Chomsky commente là-dedans régulièrement, c'est la gauche-gauche. Là. Et je prends des articles, Et je le ramène à Libremédia. Des fois, on a une section lue à l'étranger. Donc, je traduis l'article en espagnol. C'est la gauche, mais non, la gauche, la vraie. Là. Je le mets à Libremédia. Et là, au Mexique, c'est la gauche, gauche, gauche. Et là, au Québec, c'est de l'extrême droite. Non, mais c'est le même texte. T'sais, et puis là, les gens, hey, c'est extrême droite, tout ça. Non, mais vous comprenez pas. Là, c'est la gauche. Ouais. Ce type-là est un penseur brésilien de gauche. Puis, tu sais, Dieu sait qu'il est de gauche pour vrai, là. J'ai vraiment, vraiment. Écoute, la gauche est rendue pour le complexe militaro-industriel aux États-Unis. T'sais, non, mais pensez-y, on est loin de la guerre du Vietnam, là.
Non, exactement. Puis il y a tout le concept de contrôle. Des fois, je vais vous sortir un exemple très anodin. Je joue au baseball avec un policier, fait qu'il me contait qu'il y a de la nouvelle réglementation depuis un certain temps pour les jeunes avec leur permis probatoire, ainsi de suite. Pas le droit d'être plus que 4 dans un véhicule ou pas le droit d'être 4 dans un véhicule, des choses comme ça. Là, tu es là, tu te dis. Le 0.08 n'est pas disponible pour les jeunes. Eux autres, c'est 0.0 jusqu'à un certain âge. Je ne me rappelle plus si c'est 19 ou 21 ans, peu importe.
Oh ouais.
On a mis le cannabis plus tard également, légal pour les jeunes. Là, ils sont dans un véhicule automobile. Ils n'ont pas le droit d'avoir des amis dans leur véhicule automobile. Là, moi, mon premier réflexe, c'est ce que j'ai dit à mon ami qui est policier. J'ai dit, ouais, mais il me semble qu'on passe à côté du point. Si les gars vont veiller... Il y a un chauffeur désigné, le gars n'a pas bu une goutte d'alcool de la soirée, puis il ramène ses chums à la maison. C'est un succès. On vient d'accomplir quelque chose qui est extrêmement bien, et on va pénaliser le jeune avec la nouvelle réglementation pour lui dire « Hey, il y a trop de monde dans ton char à telle heure le matin. » Ouais, mais il est en train de ramener ses chums bien chauds là, à la maison. Tu sais, fait que quand tu arrives, tu parles de ça avec les plus vieux, puis on a une population qui est vieillissante, ils vont dire « Ah, les jeunes, c'est correct, on va réglementer les jeunes, c'est bien correct, c'est bien correct, c'est bien correct. » Mais c'est un contrôle étatique qui est de plus en plus grand, puis pas juste dans des grands défis de notre société, dans des mini-aspects également de nos vies.
Le contrôle, ben écoute, c'est la société de contrôle, la société de surveillance, Geneviève Guilbeault qui annonce qu'elle va multiplier les radars, les gens accueillent ça favorablement, ils ne se rendent pas trop compte de ce qui se passe, tu sais. Ben non, vous ne comprenez pas, là, c'est qu'on est de plus en plus dans des sociétés qui utilisent l'infrastructure technologique pour monitorer le comportement des citoyens. Tu sais, les drones, Libremédia avait sorti ça également, Mirabel, la ville de Mirabel qui utilise des drones pour surveiller ses parcs, les parcs, les plaisanciers. Donc, les gens sont sur des bateaux quelque part, puis ils sont surveillés par un ensemble de drones. C'est-tu Mirabel? C'est quoi la ville, dans le coin de Montréal? Je ne me rappelle plus, mais des bleds, en gros, là, qui deviennent l'objet d'une société de surveillance où il y a un endroit au Québec aussi où ils ont micro-pucé les poubelles. C'est un projet aussi de la ville de Québec.
C'est complètement...
C'est mis sur la glace. C'est quelle ville, là? C'est Vaudreuil-Dorion, c'est ça?
Oui, je pense que c'est ça,
Vaudreuil-Soulanges, ou comment on appelle ça, en tout cas. Vaudreuil, ils ont micro-poussé des poubelles. Les gens accueillent ça favorablement. Ouais, mais ça, c'est le temps qu'on change des habitudes. Ouais, mais les gens ne se rendent pas compte.
Ouais, mais ça aussi, il y a la normalisation. Parce que dans le cas de Londres, là, c'est un peu tout ça qui est derrière ça. C'est, il y a une espèce de normalisation de l'idée que les politiciens et les acteurs publics sont là pour faire de l'ingénierie comportementale. Puis t'as le gars là, qui a claqué la porte d'un espèce de comité bidon que la CAQ avait fait sur les changements climatiques. Là. Et t'as un gars, là, Pierre-Olivier Pinault, là, qui disait à tout le monde qu'il est spécialiste des changements climatiques alors qu'il a une maîtrise en philo. Là.
Je pensais que c'était Olivier Primo.
Non, ça,
non, non, lui, c'est un autre.
C'est un autre. Et lui, il a claqué la porte de ce comité-là de la CAQ parce qu'il disait la CAQ, là, ils sont pas sérieux là, dans l'idée de faut changer les comportements, puis il faut se débarrasser de nos mauvaises habitudes. Donc, on légitime le fait que des espèces de curés comme ça agissent dans les curés que personne n'a choisis, qui appartiennent théoriquement à aucune église qui les a formés, tout ça. Mais ces gens de curés-là sont là. Et on a légitimé le fait qu'il y a des gens comme ça dans l'espace public qui sont là pour nous dire comment on devrait agir, qui sont là pour modeler nos comportements, changer nos habitudes de vie. On va mettre des caméras par là pour mesurer votre taux de CO2. On va inspecter vos poubelles, savoir si vous avez mis. Et si vous êtes contre ça, vous êtes d'extrême droite, climato-négationniste, criminel climatique. Et là, ça déboule. Là, tu te dis, OK, ben, je veux juste pas qu'il y ait des maniaques qui essayent de changer mon mode de vie et ça fait de moi un négationniste du climat, un pollueur, mais ça va.
C'est à Boucherville, en passant, qu'ils ont mis des drones pour surveiller certains parcs. Quand même, tiens, un projet où Boucherville devient un laboratoire de la société de surveillance. C'est quand même c'est assez spectaculaire. Les gens ne se rendent pas compte, vite comme ça, et ils ne sont pas capables de relier les points. Donc, à Québec, tu as un pont qui menace de s'effondrer. La Geneviève Guilbeault, la ministre Guilbeault, pardon, répond à ça par des multiplications de radars. Puis au Québec, il y a aussi ça, c'est-à-dire on répond souvent à des phénomènes de manière tout à fait superficielle et cosmétique, de manière à détourner l'attention. Donc, je ne sais pas si vous voyez, le pont de Québec menace de s'effondrer. On parle d'installer des radars. Il manque 5, 6, 8 000 enseignants dans les écoles. On parle d'interdire le cellulaire. On remarque que je suis relativement favorable, mais en même temps, c'est une question de politesse, dans le sens où...
C'était déjà pas mal fait par les profs eux-mêmes.
Ben, je pense, mais en tout cas, remarque que moi, ça fait longtemps là, que je suis là où... Je suis sorti du secondaire, mais on n'avait pas encore de cellulaire. On avait au cégep.
La vraie question de fond.
J'ai 33 ans. On avait au cégep, puis on avait quand même la décence au cégep de garder son cellulaire dans son pantalon, en gros, là. Parce que, bon, texter dans la face du professeur, l'enseignant m'apparaît pas tout à fait éduqué. Peut-être qu'il y a des gens qui ont moins de politesse que moi à ce niveau-là. Mais il me semble qu'il y avait un certain équilibre. À l'université également, dans nos séminaires de doctorat, on textait pas comme des malades en face de l'enseignant, du professeur, du chargé de cours. Enfin, mais tu sais, c'est sûr, le cellulaire, la technologie en général, on sait pour les enfants, c'est un problème, ça attire leur attention, etc. Mais bref, vous voyez, là, même chose de la pandémie, qu'est-ce qu'on fait? On invite les gens à se laver les mains frénétiquement, on dépense des millions, tu sais, on pense que, tu sais, on se fait croire qu'on maîtrise la situation au Québec.
Du symbolisme.
Et la natalité s'effondre et, vous l'avez souligné, un député du Bloc québécois veut franciser un rébuffet, c'est à Trois-Rivières. T'sais, on est dans les mesures, c'est ridicule. On se fait croire avec des lois, avec l'infrastructure bureaucratique qu'on maîtrise la situation. On ne la maîtrise pas du tout. Tout nous glisse entre les doigts. Et les nationalistes raffolent de ces mesures-là qui sont finalement des rituels qui nous font croire qu'on agit sur notre environnement. C'est le principe de l'écologie aussi. Donc, tu fermes la lumière chez vous, tu allumes un lampion pour l'environnement. Donc, on est dans une société de rituels permanents, une société où on nous fait croire que chaque petit geste compte. C'est vrai puis c'est pas vrai. Là. C'est-à-dire que c'est pas vrai que tu fais une différence à l'échelle globale à chaque fois que tu prends ton vélo. C'est faux parce qu'en Inde, tu as 50 millions d'Indiens qui, en ce moment, ont des chars qui datent de 1972. C'est ça la vérité. Non, mais c'est vrai.
Mais à toutes les fois qu'un occidental change son véhicule automobile rapidement pour avoir de quoi de plus écologiste, le char, ça ne va pas à fourrière et il n'est pas détruit. Là. Il est mis dans un conteneur et il est expédié à quelque part. Là.
Ben, sauf en Chine, là, où il y a des cimetières de véhicules électriques. Parce que ça, non, mais avez-vous vu cette affaire-là? En Chine, ils font à croire à tout le monde qu'ils sont la capitale mondiale de tu sais, que les gens là-bas, ils pensent à l'environnement et ils achètent des voitures électriques. La réalité, c'est qu'il y a des cimetières, des fourrières complètes de véhicules électriques neufs qui ont été achetés par l'État pour gonfler des statistiques et sont stationnés là. Et en fait, Personne ne les utilise.
Mais ça, c'est fascinant de ces régimes communistes-là, comment qu'on veut se donner une belle jambe avec certaines statistiques, puis que le pouvoir de l'État coercitif est capable d'être mis entièrement à la disposition de l'obtention de ces statistiques-là. Mais je veux dire, vous voyez bien que c'est pas réel, ça existe pas pour de vrai, ces choses-là. Mais malgré tout, on veut se faire une belle jambe, puis on fait semblant, l'Occident fait semblant que la Chine accomplit des belles choses de son côté, alors que c'est du m'as-tu vu, là, je veux dire, c'est de la poudre aux yeux, cette affaire-là. Là.
Ah ben, un grand classique des régimes autoritaires, évidemment, la falsification de statistiques, c'est le plus grand classique. Ouais, donc ouais, la société de surveillance qui est mise en place graduellement. On fait un article sur Geneviève Guilbeault qui ne porte pas sa ceinture de sécurité. Bon, elle ne montre pas l'exemple. Ça, c'est une histoire, vous voyez. Je ne sais pas s'il faut s'en réjouir, c'est-à-dire que Geneviève Guilbeault a été prise à son propre jeu, mais en même temps, tu dis, tu sais, au Québec, on fait des unes de journaux avec des politiciens qui n'ont pas mis leur ceinture de sécurité. Tu sais, ça reste incroyablement ticoun, c'est incroyable.
Non, mais je pense c'est ticoun, mais le pire dans tout ça, c'est que c'est une histoire qui date quand même. Je veux dire, ces photos-là existent depuis longtemps. C'est des choses qui ont été discutées dans certains podcasts un peu plus à droite à l'époque.
Ah oui.
Mais là, il y a une élection dans Jean Talon qui s'en vient. PKP veut réitérer le fait à la CAQ qu'il est encore pertinent. Il veut faire élire un député péquiste dans Jean Talon. Puis il va réussir à faire élire un député péquiste dans Jean Talon pour alors envoyer un message à la CAQ. Là. C'est ça qui... Tu sais, à un moment donné, la trame de fond qu'il y a derrière ça, le jeu... PKP, c'est quelqu'un qui n'est pas très facilement capable de cacher son jeu. On est capable de bien lire le personnage. Il me semble que quelqu'un d'un peu allumé est tout capable de se rendre compte de ces affaires-là. On est en train de mettre la table pour une défaite de la CAQ dans Jean Talon puis une victoire péquiste. Et PKP va pousser dans cette direction-là. Parce qu'on a sorti une nouvelle vieille de 6 mois avec Geneviève Guilbeault hier. La toile du web avait déjà tout découvert ces photos-là il y a bien longtemps.
Il y a ça, mais il y a un point que personne soulève là-dedans, c'est qu'elle est symptomatique. Cette affaire-là, c'est symptomatique d'une attitude qui est très, très québécoise. C'est-à-dire, on tolère une multiplicité de règles dans la société parce qu'on sait qu'on ne les respecte pas. Donc, on a des limites de 100 sur l'autoroute, tout le monde roule 125, 130, ça ne dérange personne. On avait des interdictions pendant la COVID. Pourquoi plein de gens, ça ne les dérangeait pas? Ils ne respectaient pas. Ah, moi, c'est pas grave, j'ai caché le véhicule de mon beau-frère en arrière du garage, puis on a fêté Noël pareil. Combien de fois j'ai entendu ce genre de truc-là?
Heureusement,
mais c'est à quelque part, c'est un problème parce qu'on tolère et on banalise l'implantation de règles liberticides parce qu'on se dit de toute façon, on les respectera pas. Il y a des lois débiles au Québec qui empêchent aux gens de faire un pique-nique avec de l'alcool dans des parcs, mais les gens s'en foutent. De toute façon, tout le monde boit dans le parc. Ils amènent des bières, ils amènent du vin, ça dérange personne. Tout le monde fait comme si ces règles-là n'existaient pas, alors que la vraie solution, c'est de les abolir et de surtout ne pas en tolérer de nouvelles. Donc, tu sais, même cette femme-là puis ces politiciens-là sont pareils. Ils font tous ça. Ils sont les promoteurs d'un espèce de système ultra-réglementaire qui micromanage la vie de leurs citoyens et eux-mêmes ne respectent pas leurs propres règles parce qu'ils les jugent eux-mêmes débiles ou...
Oui, puis ce qu'on oublie, c'est que comme Québécois, c'est que si tu arrives puis il y a une nouvelle règle qui est implantée et qui n'est pas vraiment appliquée par les forces de l'ordre, on se dit « Ah, OK, c'est pas grave, de toute façon, personne ne check ça. » Oui, jusqu'à temps que ce soit utilisé dans un cas bien précis de manière subjective pour pénaliser un individu qui a été ciblé. C'est la raison pourquoi on ne veut pas avoir autant de règles puis on veut cette liberté-là. Parce qu'à un moment donné, l'arbitraire permet... à des gens qui sont en soif de pouvoir ou qui veulent être mesquins, d'avoir énormément de pouvoir sur d'autres personnes. Puis ça, c'est pas sain. Là. C'est pas le genre de société dans laquelle on veut vivre. Là.
Comme la personne qui avait eu une amende parce qu'elle accrochait des trucs sur son rétroviseur, je pense que c'était dans le coin de Granby.
Lâche pas mon Frank, tu vas l'avoir.
Désolé, j'ai comme coupé. Il y avait une histoire qui était sortie dans un journal, je me souviens plus où, c'était une fille dans le coin d'Iran-B, elle accrochait après son rétroviseur. T'sais, on voyait ça pendant la pandémie, là, les gens accrochaient le masque après ça. Et elle, elle avait mis un sambon, un genre de sapin sambon là, qui est vendu depuis Mathusalem au Québec. Là. Et il y a un policier qui l'a arrêté, il a dit « Ben, vous obstruez votre vision, madame, c'est illégal de faire ça. » Puis personne n'était au courant de cette loi-là. Et la femme a eu une amende par rapport à... Il y en a plein des affaires comme ça, là. Mais plein. Je connais une personne qui était arrêtée à un moment donné. Il était chez lui, il disait hey, « c'est vrai, j'ai oublié, il faut que j'aille chercher mon gars à l'école. » Et il était chez eux dehors, il faisait des trucs, il avait pas de chandail. Il embarque dans son véhicule, il se fait arrêter par la police. Le policier lui dit « Mais monsieur, vous n'avez pas le droit de ne pas porter de chandail au véhicule, c'est genre grossière indécence ou je ne sais pas trop, c'est comme considéré comme un attentat à la pudeur ou je ne sais pas quoi. » Il y a eu une amende parce qu'il était dans son propre véhicule en bédaine.
Vous risquez ainsi une amende variant de 90 à 175 $ plus des frais de 10 $ si le champ de vision du conducteur est obstrué par un éclat ou une fissure, puis des trucs dans le pare-brise. Comme vos sapins en D en minou pourraient vous coûter 171 $ d'amende, rappelle la police de Green Bay. 10 août 2020. T'as donc même une mémoire des niaiseries.
Mais moi, Frank, je suis pas tout à fait d'accord avec ton point. C'est-à-dire, je pense qu'au Québec, on respecte plus les règles qu'ailleurs, mais il y a quand même, heureusement, des gens qui ne respectent pas. Mais je pense qu'on les respecte malheureusement plus qu'ailleurs, les règles. De manière générale, l'esprit technocratique, bureaucratique au Québec est vraiment très fort, là, malheureusement.
Je suis d'accord avec toi, mais moi,
je pense qu'il y a 30% de la population, une espèce de noyau, qui fait la part des choses, mais c'est pas tout le monde, malheureusement. Oui, on l'a vu durant la pandémie.
Tu sais, c'est ça. Sauf que durant la pandémie, on était tout seul de notre gang et on se faisait écrire « Oh, c'est bien vous autres liberté » par des gens qui avaient l'intention de toute façon de les ignorer.
Mais ça, c'est vrai, oui, au pouvoir, mais ça a été dans plusieurs pays. Boris Johnson, tu sais, il y a beaucoup de dirigeants à travers le monde qui n'ont pas respecté les mesures qu'ils prônaient. C'est un grand classique. Mais je te dis, en France, respectez moins les consignes, beaucoup moins les consignes sanitaires. Puis on parle de la France qui est quand même un monstre bureaucratique. Au Mexique, on n'en parle pas. En Colombie, j'ai vu, bon, c'était aussi beaucoup plus souple, d'une certaine façon. Malheureusement, là, au Québec, enfin, je parle de la pandémie, mais tu sais, le Québec, c'est quand même un endroit où les bancs de bébés ont une date d'expiration. Là. C'est pas une psychose bureaucratique. T'sais, on se demande c'est quoi. Là. Écoutez, là, j'en ai parlé, mon balcon, là, m'a envoyé un avis ici là, à Québec parce que mon balcon serait plus conforme aux nouvelles normes. Et là, la ville nous enjoint, nous oblige à refaire le balcon qui a été fait il y a 10-15 ans parce qu'il ne correspond plus aux standards esthétiques. Je ne sais pas si vous comprenez, à Québec, il y a un gars qui est payé 90 000 par année pour faire de la délation de balcon.
Ça n'a pas d'allure.
Oh, c'est de la maladie mentale.
Non, mais pensez-y. Là. Puis là, j'explique ça à mes copropriétaires. Puis là, je leur dis, est-ce que vous réalisez qu'un délateur de balcon à Québec gagne 90 000 $? Puis là, mes copropriétaires n'ont pas l'air à comprendre exactement mon point. OK, lui, il est-tu d'extrême droite? Non, je rigole. Alors, ils sont super corrects, mes copropriétaires. J'espère qu'ils ne m'écoutent pas, mais vous comprenez, c'est... Non, mais juste le fait de se plier à ça. T'sais, moi, je suis là, non, oubliez ça, là, et on va sortir un document qui montre qu'on était conforme à l'époque. Il n'est pas question qu'on mette 10 000 $ pour rénover des balcons qui sont tout à fait sécuritaires, en plus. C'est même pas un truc de sécurité qui invoque, c'est un argument d'esthétique, tu sais, puis c'est un vieux bloc, où est-ce qu'on est, mais c'est pas le 19e siècle, tu sais, donc je veux bien, là, que ce soit patrimonial, mais ça l'est pas encore, tu sais, c'est un bloc de 1945 où je suis, là, t'sais, exagérez pas non plus, là, c'est pas un immeuble haussmannien dans le 5e arrondissement de Paris, donc vous voyez que c'est du délire assez, vraiment incroyable, mais les gens, ils baignent dans cet univers-là, puis ils ont l'air à trouver ça plutôt normal, qui est, je le répète une troisième fois, un délateur de balcon payé par les contribuables.
Il y a une lassitude. Hein?
C'est fou, là.
On nous parle de pénurie de main-d'œuvre sans arrêt, mais ce type de job-là n'a jamais de pénurie.
Non.
Les gens qui sont payés pour faire chier et appliquer des règlements vraiment idiots, ça fait la file pour avoir ces jobs-là. Fait qu'à un moment donné, t'es là, tu te dis, qu'est-ce qui se passe réellement? Est-ce qu'on a encore le goût d'être en vie? Est-ce qu'on a encore le goût d'innover? Est-ce qu'on a encore le goût de la liberté? Puis tu te rends compte que c'est quelque chose qui disparaît tranquillement. T'sais, puis le pire, c'est que la génération présentement qui pousse ces lois-là qui sont liberticides puis qui applaudit chaque fois qu'il y en a une parce que ça augmente leur sécurité, c'est quand même la génération qui a participé à Woodstock, la génération Peace and Love, la génération où est-ce que tout était permis puis tout était libre. Fait que comment on fait pour évoluer comme société pour que la même personne passe d'un fumeux de pot tripeux de Woodstock à un control freak qui veut réglementer tout puis vivre dans la sécurité? Qu'est-ce qui s'est passé pour éteindre la flamme à l'intérieur de ces personnes-là, une par une?
Mais c'est ça qui est paradoxal. Peut conclure là-dessus. Moi, je le remarque depuis un certain temps. J'appelle ça le virage law and order de la gauche. C'est que traditionnellement, on était dans un mode où c'était law and order, c'était le slogan des conservateurs. Il faut la société, tu sais, il faut, puis on persécute les communistes, les marginaux, tout ça, puis c'est la loi et l'ordre. C'est comme ça, c'est ça le conservatisme, c'est la loi et l'ordre social, on garde les choses comme elles sont. Et aujourd'hui, est traité d'extrême droite, des gens anarchistes ou libertariens qui sont comme « Non, mais ça, on devrait abolir ça, changer tout ça. » Et c'est les gens qui sont en place, qui se voient eux-mêmes comme des progressistes, des gens de gauche, c'est eux la loi et l'ordre. T'sais, je veux dire, la fois dont on parlait à Londres avec des caméras de sécurité, tout ça, il n'y a pas plus 1984 puis Law and Order que ça. Et c'est eux qui souscrivent à ces conneries-là. C'est
et fou, on s'aperçoit que le système public et l'État-providence au Québec ne sert plus la population, mais ce que Javier Milei appelle en Argentine la casta politica. C'est-à-dire, c'est la caste politique. Le système public ne sert qu'à justifier sa propre existence, à maintenir une caste au pouvoir qui bénéficie des privilèges qui vont avec le régime étatique. Mais
qui travaille 70 heures semaine.
Regardez combien la vie coûte au Québec, le coût de la vie. Il y a personne qui va me faire croire actuellement que l'État-providence québécois sert la classe moyenne au Québec. Je n'y crois absolument pas. C'était un beau principe à l'époque, mais le système public au Québec sert à entretenir le système public.
Carrément.
Puis on le voit avec l'exemple du délateur de balcon à Québec. T'sais, à quoi ce type sert? T'sais, je comprends, en Vieux-Québec, il y a des normes patrimoniales, mais le système public sert d'abord et avant tout à servir le système public.
Comme Jacinthe Varelle nous a dit ce printemps, le fonctionnaire, son rôle, c'est de faire fonctionner le fonctionnement.
c'est
carrément ça. Écoute, merci Jérôme d'avoir été avec nous. Les gens qui veulent vous suivre, libremedia.com. Est-ce qu'ils peuvent vous suivre ailleurs, votre chaîne YouTube? Ça, je te laisse.
Chaîne YouTube et libremedia.com avec un trait d'union, c'est les deux principaux pôles. Évidemment, compte Twitter, etc. Chaîne Telegram également. Sur Facebook, ça marche encore. Donc, en fait, on a même augmenté notre portée sur Facebook parce qu'on met des photos maintenant avec des articles intégrés en bas. Donc, les photos ont une plus grande portée que les liens. C'est incroyable. Pour l'instant, nous, on est favorisés par la nouvelle loi. C'est 18.
C'est une bonne nouvelle. C'est une très bonne
nouvelle. Mais je ne suis pas sûr que je vais revenir à votre podcast, les gars, parce que j'ai l'impression que c'est comme un podcast d'extrême droite. Là, fait que...
Non, c'est ça. Ça qui arrive.
Ou ben non, c'est juste que tu es rendu trop gros là, avec tes 19 000 abonnés. Tu n'auras plus besoin de nous autres, tu vas nous flusher, Jérôme.
C'est ça.
Allez, bonne semaine.
OK, ciao. Salut, bye.